Gameblogueuses, Gameblogueurs, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog.
Salut!
Avec moi Julo, toujours en jouet.
La pêche.
Comme à chaque fois qu'on fait un live, Julo c'est ouais, salut!
Yeah, ouais, comment ça?
Exactement, voilà, tu vois, je connais ton petit truc par cœur.
Ouais.
Avec nous aussi Romain.
Bonsoir.
Et en fait, on va être tous les trois aujourd'hui pour vous faire un podcast. Eh bien, en particulier. Sur la grosse semaine d'Ubisoft, ça va être le thème, on va dire, le plus développé hein, de la semaine. Mais aussi, eh bien, pour parler de l'absence, messieurs, en deuxième partie, de l'absence de Nintendo de la Paris Games Week. C'est quand même...
Oui, ce sera l'occasion de...
Et de faire, évidemment, un topo plus large sur la Paris Games Week. Parce que la Paris Games Week...
Ça commence bientôt.
Elle était censée remplacer la Gamescom. Et là, comme
ça c'est une question qu'on peut toujours se poser, oui.
Oui, bon, on en parlera tout à l'heure. Comme d'habitude, début de podcast égale... Win et fail. Et pour
mais attends,
le win,
t'as même pas dit que t'allais parler de Dishonored 2.
Ah oui, c'est vrai.
Bah ouais. La surprise de fin de podcast.
Ah désolé, je casse garder, tout. Putain, tout ce qui est beau, je le casse.
Ouais, c'est vrai. Comme quand on avait dit qu'on ferait plus de podcast l'année dernière, qui t'avait fait, tu sais, pour le dernier podcast de la saison, t'avais fait ah bon, mais vous dites n'importe quoi, les gars. Qu'est-ce que vous racontez? Ouais, mais Julo, c'était une blague.
Hein. Jean-Michel casse les blagues.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on parlera aussi de Dishonored 2. Voilà, c'était la surprise, mais bon, tant pis. Hein, Julo, il a tout cassé. On va parler du win et le win, Julo. Qu'est-ce que c'est cette semaine?
Moi, j'ai pas envie de le dire, en fait.
C'est vrai?
Ouais.
Ouais, tu casses les blagues, mais tu casses les couilles, en fait.
Non, alors, on a un petit peu un double win qui tourne autour de la Xbox One cette semaine. Alors, d'abord, parce que MCV UK, donc au Royaume-Uni, a annoncé que la console Xbox One S sortit récemment en version 500Go et 1Tera, parce qu'elle était sortie il y a quelques semaines.
1Tera, le voilà. Août et là elle est arrivée
tout
la semaine
fait.
Dernière avec un bundle FIFA d'ailleurs.
Voilà,
on
bah, c'est pas anodin évidemment. Il y a un bundle FIFA et c'est dans un moment je crois où on va dire Microsoft ressort un peu la tête de l'eau en termes de jeux
d'image
voilà. Et donc MCV annonce que la console, les ventes de la console ont augmenté de 1000% depuis cette semaine, donc avec l'arrivée de cette
nouvelle console. Les 1000% en fait c'était quand la Xbox One S est sortie en août. Là cette semaine par contre la semaine dernière par contre elle était largement devant la PS4, mais l'augmentation de 1000%
c'est 1000% c'est depuis
non 1000% c'était dans la semaine qui a suivi le lancement de la Xbox One S au Royaume-Uni au mois d'août.
Là, autant pour moi.
Mais cette semaine,
ça n'a pas beaucoup décru hein, parce qu'ils ont à chaque fois vendu énormément.
Ils sont sur un bon trend depuis la sortie de la Xbox One S et là, si je me souviens pas des chiffres exacts, mais je crois que c'était 69% de part de marché ou
c'est ça.
Sur la semaine juste pour les consoles Xbox.
Alors,
la semaine dernière au Royaume-Uni.
On peut quand même évaluer deux choses. D'abord, la sortie de FIFA 17 qui était jouable en plus un peu en avance sur Xbox One. Ce qui doit
c'est
jouer.
71% des parts de marché. Voilà.
Ce qui doit jouer un petit peu quand même, parce que avoir envie de jouer à un jeu de foot au Royaume-Uni, bon, on connaît hein, le marché du Royaume-Uni qui est quand même très très friand de jeux de foot. Et puis le fait que la PS4 Pro et la PS4, oui, surtout la PS4 Pro arrive en novembre, ça fait peut-être un petit
j'ai
déclin au niveau des ventes de la PS4 normale.
Voilà, ça fait forcément perdre un peu de ça participe à faire perdre à la PS4 des parts de marché sur ce marché en tout cas du Royaume-Uni et sur cette période là après voilà il y a quand même une baisse de prix énorme. C'est une offre, une nouvelle gamme qui arrive et l'actuelle gamme qui va devenir l'entrée de gamme voilà dès qu'il y aura les deux consoles, mais ça veut rien dire, je veux dire, sur la guerre des consoles d'une manière générale, etc. Mais disons qu'en ce moment il y a un bon trend pour Microsoft et que ce passage en
et peut-être que Forza va jouer aussi
mais il illustre un peu le truc. Et Forza, t'as vu, il y a un très bon buzz aussi, très bonne
mais moi je trouve que ça illustre plusieurs choses aussi, parce que la Sony a sorti la PS4 Slim récemment aussi au Royaume-Uni et ça a pas eu d'impact sur les ventes de la PS4 depuis la sortie de la Xbox One S. On va dire que la Xbox One est repassée devant au Royaume-Uni en termes de ventes hebdomadaires, hein, pas au total mais hebdomadaires, et la PS4 Slim n'a pas permis à Sony de revenir devant. Et moi je pense que ça montre qu'avec la Xbox One S, Microsoft a un produit que les gens ont envie d'acheter. C'est contrairement à certains territoires où il y a une aversion assez profonde envers les consoles Xbox, au Royaume-Uni, c'est juste que la Xbox One telle qu'elle est sortie initialement ne plaisait pas. Et là, donc un modèle, je pense, plus petit, avec en plus le lecteur Blu-ray 4K, peut-être aussi les possibilités en termes d'upscaling 4K directement à un prix quand même relativement raisonnable. Ouais. Je pense que ça a attiré aussi attirer aussi le public britannique.
En fait, c'est le bon timing, quoi. Juste le bon timing et puis la bonne machine.
Et un bon produit, je pense. Ouais,
reste à voir l'effet à moyen et long terme. Le long terme étant l'arrivée prochaine de la Scorpio, mais ce sera quand même un an après la PS4 Pro. Donc voilà, c'est loin d'être fini, mais disons que voilà, c'est assez intéressant d'observer les tendances à des moments donnés, surtout quand on lance pas une nouvelle console, mais une nouvelle version d'une console, quoi.
Ouais, bah surtout en fait, là on va parler du deuxième. Le deuxième coup, qui lui a fait vendre des consoles par palette. Ouais, voilà, c'est forcé.
C'est évident. Non, bah on voulait revenir sur la rétrocompatibilité parce qu'il y a un jeu qu'on adore ici chez Gameblog qui s'appelle Lost Odyssey, qui est rentré justement cette semaine dans la liste des jeux rétrocompatibles. Donc si vous avez votre petite galette.
4 galettes, il y en avait 4.
C'était 4, c'est vrai. Ouais, enfin, si vous avez le jeu en tout cas en physique, et ben, il suffit de le mettre dans la console et de pouvoir y jouer désormais grâce à la rétrocompatibilité. Ça vous permettra peut-être de découvrir un des meilleurs RPG génération précédente.
C'est un des meilleurs Final Fantasy des dernières
Final
années.
Final Fantasy
hein.
Like, ouais, c'est
donc,
ça.
Puisque c'est...
Il a été injustement critiqué par certains, je trouve, à son lancement, mais maintenant qu'on est des années derrière, t'as l'impression qu'il y a la tendance générale, c'est que tout le monde a compris que c'était quand même un super jeu, quoi.
Moi, j'ai un souvenir de ce RPG qui est assez.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a regardé tout de suite sur Amazon si le jeu avait progressé dans ses ventes,
UK,
que ce soit en occasion ou pas.
UK et US, c'est des bons près de 1000% par rapport à la place qu'il occupait.
Mais quand tu pars de rien,
voilà.
C'était à zéro forcément. Donc, mais ce qu'il y a, c'est marrant de voir que quand c'est un grand jeu qui devient rétrocompatible, les ventes augmentent instantanément.
Comme c'était le cas pour Red Dead il y a quelques mois.
Comme quoi, enfin, je veux dire, c'est quand même une fonctionnalité qui intéresse les gens, quoi. Je sais qu'avec Julien, on a souvent ce débat.
Oui, ça n'intéresse personne.
Parmi d'autres, je pense pas que ça n'intéresse personne. Je pense qu'il y a un vrai déjà.
Ah, pour moi, c'est bon.
En termes de communication, je trouve qu'il y a un vrai bon effet. On l'a vu aussi quand Red Dead Redemption est arrivé dans la liste des jeux. Et maintenant, il y a des Call of Duty aussi, etc. Et là, avec un jeu comme celui-là, bah voilà.
Et là, en plus, je me dis que ça peut être un effet en chaîne parce que vous avez la Xbox One S qui sort et donc qui propose un lecteur Blu-ray 4K. Et donc ça peut peut-être attirer des gens qui n'avaient pas l'intention d'acheter de console Xbox. Et donc tu achètes la console parce qu'elle propose ce lecteur-là, mais après tu te rends compte qu'elle est rétrocompatible. Et si par exemple tu as toujours eu des PlayStation jusqu'à présent ou des consoles Nintendo et que tu vois que ces jeux exclusifs Xbox sont rétrocompatibles, ça peut peut-être aussi te donner envie de rattraper ton retard. Là, ça représente vraiment une toute petite partie des joueurs, hein, je pense, mais ça peut être, tu sais, des choses que tu accumules progressivement et qui font que le tout est intéressant à tes
yeux. Je pense que ça serait intéressant de demander à des boutiques, les boutiques qui ont pignon sur rue. Tu avais fait un dossier d'ailleurs sur les boutiques de jeux vidéo en France. L'impact que ça a sur la cote d'un jeu, parce que quand un jeu devient rétro-compatible sur Xbox One, ça forcément, je pense, ça doit augmenter au moins un peu. Quand c'est un bon jeu, en tout cas, la cote qu'il peut avoir en occasion dans les boutiques.
Là, c'est vrai que c'est sûr que ça serait intéressant d'aller voir à Boulevard Voltaire, enfin à République, pour voir ce qui s'est passé dans les boutiques. Mais oui, j'imagine que l'augmentation a dû être immédiate.
Ce qui est marrant, c'est qu'inversement, tu sais, quand un jeu qui était soit rare ou soit très demandé ou très culte, etc., avait une bonne cote, quand il arrivait en version dématérialisée, ça faisait souvent baisser sa cote justement parce que ça devenait facile d'y jouer, etc. Là, c'est marrant parce qu'avec la rétrocompatibilité sur des jeux en physique, et bah du coup ça a l'effet inverse, ça fait augmenter je pense les cotes.
Parce qu'en plus il y a certains jeux rétrocompatibles que tu peux acheter sur le store dématérialisé sur le Xbox Store. Lost Odyssey n'en fait pas partie. Lui, il est rétrocompatible, mais si tu veux y jouer, il te faut forcément le jeu physique. Donc là, la cote en occasion du jeu peut augmenter. Et puisqu'on parle des jeux qui viennent d'être ajouté à la rétrocompatibilité. Moi, je note aussi qu'il y a Toy Story 3. Alors, ça va peut-être faire rire certains.
Il était très bien, Toy Story 3.
Mais j'ai trouvé que Toy Story 3, c'était...
Mais c'est lui qui a introduit la Toy Box qu'on trouve dans Disney Infinity.
Si vous voyez Disney Infinity, Toy Story 3, c'est la base. C'est c'est l'ébauche de ce qu'on a pu avoir dans Disney Infinity. Et il y avait une campagne qui était très chouette.
C'était
plus le monde
super mignon.
Toy Box avec plein de missions que tu pouvais jouer en coop à deux. Si vous avez des enfants et vous avez une Xbox One, Toy Story 3, c'est vraiment un jeu très chouette.
Voilà, j'ai un bon souvenir de ce jeu aussi. Voilà, ça c'était pour les wins de la semaine, mais maintenant il va falloir failer un peu. Et pour le fail, On va dire qu'on lui tape dessus souvent, mais en même temps...
Là, tu vois, c'est l'inverse. C'est... Alors, autant, on disait à l'instant que la Xbox One, t'as de plus en plus de bons points qui s'accumulent. No Man's Sky, c'est l'inverse.
Ouais.
C'est le jeu, là, c'est l'acharnement total.
C'est la nouvelle tête de Turc.
C'est le nouveau...
À juste titre, à certains niveaux. Parce qu'il y a pas mal de promesses qui n'ont pas forcément été tenues.
Et c'est justement de ça qu'il est question.
Et c'est justement ça dont il est question, parce qu'au Royaume-Uni, en fait, il y a un joueur qui, outré, le mec, il est ulcéré de voir que sur la page Steam du jeu...
Il en a fait le combat de sa vie.
Les screenshots, les screenshots et les vidéos du jeu qui étaient présentées, les fonctionnalités, etc., ne représentaient pas forcément ce qu'il avait pu voir dans le jeu. Et ben, il a contacté l'Advertising Standards Agency, donc c'est le, comment dire, l'organisme britannique qui supervise les bonnes pratiques en matière de publicité, pour leur dire voilà, tel point, ce que j'ai eu dans le jeu ne correspondait pas à ce qu'on m'avait promis et ce qui était affiché sur la page Steam du jeu, parce que c'est un joueur PC en l'occurrence. Et l'ASA a répondu, figurez-vous que vous êtes loin d'être le seul à nous avoir contactés.
Ah ouais ?
Donc ils ont reçu un nombre suffisant de plaintes pour ouvrir une enquête, carrément. Et donc, ils ont établi une liste, la liste qui est disponible dans la news, des différents points sur lesquels aussi bien Hello Games...
Genre ces énormes dinosaures là, que personne n'a jamais vu.
Ça, les vaisseaux qui volaient à ras du sol, ouais, un truc comme ça, les escortes,
etc.
le temps de passage d'une galaxie à une
autre. Mais là, il
parle
pas de ça, le gars, dans sa plainte, c'est plutôt vraiment les features qu'il y avait dans la page Steam.
Non, c'est...
Il parle aussi de ce qu'on voyait dans les trailers.
Tu sais, il y avait des images, des trailers, etc., qui étaient sur...
C'est pas vraiment de la publicité.
Un trailer, c'est une pub. Ouais. Un screenshot, c'est publié par Steam, c'est une publicité. Et donc, c'est cet ensemble de choses-là sur lesquelles, Hello Games et Steam vont devoir répondre. Et les gens de l'ASA expliquaient que, on va dire, une décision rendue vis-à-vis du cas de Steam, bien précisément, et de ce qui est affiché sur Steam, fera jurisprudence sur les autres médias, on va dire. Par exemple, si Hello Games a diffusé au Royaume-Uni des trailers de No Man's Sky sur YouTube, et que ces trailers montrent des fonctionnalités qui ont été considérées comme trompeuses par la suite par l'ASA, ils devront soit les supprimer, soit les changer complètement.
Mais alors, dans le cas où, parce que Hello Games, là, on les entend pas beaucoup ces derniers temps.
J'ai regardé, Sean Murray a pas tweeté depuis mi-août, je crois.
Voilà, parce qu'ils sont en train de bosser justement sur les fonctionnalités, normalement sur des fonctionnalités qui n'étaient pas implémentées dans le jeu à la sortie, mais qui doivent être ajoutées au fur et à mesure. Et justement, dans le cas où certains des trucs dont il avait parlé avant arrivent au fur et à mesure via des patchs gratuits, comme ça a été promis, et je crois que même Shuhei Yoshida en a parlé, qu'il y avait plein de choses qui devaient.
Shuhei Yoshida, il a surtout dit c'est la faute de Sean Murray,
il n'était pas accompagné
d'un RP.
Il l'a bien blâmé, mais d'un autre côté, il a dit que voilà, ils allaient continuer à taffer dessus. Mais si jamais, effectivement, toutes ces choses qu'on nous avait promises arrivent finalement au fur et à mesure.
Ça, je pense que ça va être à Hello Games de l'expliquer, de le montrer à l'ASA. Et peut-être qu'après, je ne sais pas, ça, parce que l'enquête n'est pas arrivée à terme encore, on n'a pas eu les résolutions de cette histoire, mais peut-être que ça pourrait devenir, je ne sais pas, une mention, tu sais, une petite étoile et qui renvoie un texte disant ces fonctionnalités arriveront par la suite dans le jeu. Je ne sais pas, y a pas encore de finalité dans ces choses là par contre, ce qui est le joueur qui a porté qui a fait exploser cette histoire expliquait qu'en fait c'était pas pour s'en prendre directement à Hello Games et à No Man's Sky qu'il avait fait ça, c'était juste le résultat d'un ras-le-bol général d'avoir l'impression que les éditeurs mentent aux joueurs systématiquement en proposant un rendu graphique ou des fonctionnalités ou des éléments qui ne sont au final pas dans les jeux qu'on leur vend, et donc c'est pour que ils prennent conscience de ça et qu'ils arrêtent de nous raconter des bobards. En fait, c'était ça le but de sa démarche.
Mais
No Man's Sky, ça a été la goutte d'eau, en fait.
Ça me fait penser à un truc, c'est que tu sais, souvent quand on voit des trailers de jeux, il y a toujours marqué, pas toujours justement, les images que vous voyez ne reflètent pas forcément la qualité du produit final, mais quand on voit ces phrases là on se dit ah ouais, ils veulent nous dire que ça va être encore plus beau et que c'est une version, alors qu'en fait ça peut être l'inverse aussi. Ça peut te permettre de te protéger quand tu vas pas avoir ce rendu là ou ces fonctionnalités là dans le jeu final.
On a pas mal reproché ces dernières années à Ubisoft justement de faire ça, tu sais, de proposer un premier trailer ou des trailers totalement éblouissants, et qu'après on parle de downgrade quand le jeu final sort. Donc ils ont revu un peu le, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule à ce sujet depuis
C'était pas le cas avec The Division,
non, pas le cas avec The Division,
enfin, même s'il a, il est passé par des moments un peu douloureux,
mais il y a eu un premier downgrade de The Division qui a fait beaucoup parler, quoi.
Oui, bah,
je me souviens bien l'E3
moins d'un an avant sa sortie, un an avant sa sortie.
Je sais plus. C'était la deuxième fois qu'il le montrait, je crois que.
Bah, c'était à l'E3 2015.
Ouais, ouais, donc un an, moins d'un an avant sa sortie.
Mais donc, oui. Au final, ils sont bien rattrapés, je trouve.
Ils sont bien rattrapés, mais je veux dire, même dans leur trailer, quand ils ont présenté Watch Dogs 2 la première fois, par exemple, c'était plus aussi incroyablement beau. La claque avait été le tout premier trailer du premier Watch Dogs, tu vois. Donc ça change. Mais c'est vrai que le bullshot, comme on l'appelle, que, mélange de bullshit et de screenshot. Le bullshot, c'est une pratique super répandue dans le milieu, et ça serait bien que ça cesse, quoi. Je me souviens, j'ai cet exemple qui me vient tout le temps à l'esprit du jeu vidéo Rambo, qui est une bouse atomique. Mais alors les tout premiers screenshots du jeu, t'avais une forêt équatoriale super dense. Rambo, ce jeu catastrophique là qui est sorti fin de génération de PS3 et 360, et les tout premiers screenshots étaient certains du paysage étaient vraiment beaux, alors que le jeu est immonde. C'est faut arrêter, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des Photoshop
sur les publicités et sur les couvertures des magazines.
Oui, c'est un ensemble. Mais en tout cas, il faudrait
que Jules arrête de se maquiller aussi, hein. Là, il nous fait croire qu'il est beau à chaque fois, tout le temps, machin. Mais en fait,
gratter un peu la
couche de vernis, vous verrez. En fait, il est là comme un pou.
Non, bref, j'étais en train de faire un discours enflammé là.
Mais tu peux continuer à t'enflammer.
Bah non, tu m'as cassé à parler de maquillage. Là, on s'en fout.
Bah alors tu voulais dire quoi?
Non, j'en ai marre, j'arrête.
Bah allez, Robin.
Non, je disais juste que ça serait bien qu'effectivement une autorité tape sur les doigts des éditeurs et les incite à être un peu plus respectueux du consommateur à ce niveau-là. La publicité mensongère, c'est illégal dans plein de domaines. Pourquoi ça le serait pas dans le jeu vidéo?
Absolument. Voilà. Tout à fait. Bien vu, Romain. C'était le petit fail de la semaine. Et avant de passer au premier thème, on va faire comme la semaine dernière, un point sur la NX. Puisqu'au moment où nous enregistrons,
il faudrait presque un jingle à ce moment-là.
C'est le 30 septembre. Donc septembre, c'est fini. On n'a rien eu concernant la NX qui sort dans moins de 6 mois.
Sauf si c'est à lui actuellement. Hein. Oui, Je le répète à chaque fois parce que c'est déjà arrivé.
Oui, c'est déjà arrivé. Traz n'a pas franchi la porte. Donc normalement, il n'y a rien sur la NX.
Mais Traz, il traverserait la porte. Il a franchi la porte. Il y aura un trou dans le mur.
Il l'aurait déjà défoncé. Mais c'est quoi cette connerie là? Ça résiste pas. Mais bref, la NX. On n'a encore rien eu cette semaine, à part quelques petites phrases. Donc, à commencer par Yves Guillemot, qui a confirmé durant l'assemblée générale d'Ubisoft que la NX allait permettre à Nintendo de revenir dans la course. Romain, je te vois hocher la tête.
It is fantastic.
Voilà.
Fantastic console.
Il s'est contenté de ça. Hein. Il a rien dit de plus. Et puis, bah, c'est tout pour Nintendo et la NX, quoi. C'est tout. Enfin.
Mais on se devait de faire un point NX.
Mais on doit faire un point NX parce qu'il y a rien. Donc comme
la
ça.
La seule annonce finalement de Nintendo cette semaine, c'est
la mini Famicom.
La Famicom Mini qui est adorable, soit dit en passant.
Qu'elle est extraordinairement chouette. Enfin, même si les manettes, j'ai l'impression qu'elles sont toutes petites. Je sais pas si des grosses.
Bah, peut-être que les manettes Famicom. Je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai jamais eu de Famicom. J'ai toujours joué à la NES.
Ouais.
Peut-être que les manettes Famicom d'origine étaient un peu plus petites que celles de la NES. Je ne sais
non,
pas.
Non, je crois
la même
pas.
Chose.
Hein. Ouais. Ouais.
Très bien. Bon, mais par contre, la liste de jeux est un peu différente de celle. Il y a quelques jeux qui changent.
Ouais, très peu. Hein.
Par exemple, il y a pas Punch Out ou le jeu de football américain dans la version japonaise.
Il y a Arkham Fu.
Et il y a River City Ransom, donc des beat'em all de la NES. Oui, elle est super cute.
Ouais, elle est super jolie.
Et à noter,
en attendant la nouveauté.
Ouais.
Oui, Nintendo,
Ils jouent sur la nostalgie, comme ils le font depuis plus de 10 ans. Ouais. Et j'ai remarqué un truc que j'avais pas noté à l'annonce de la NES Mini, c'est que la prise, le transformateur, n'est pas inclus dans la boîte.
En fait, c'est un chargeur de DS encore.
Non, c'est un câble USB.
Ah bon.
Donc vous pouvez la brancher en USB pour jouer. Pour l'alimenter, mais il faut acheter à part le petit, tu sais, comme l'embout de prise d'iPhone en fait, où t'as un câble USB que tu branches à une prise. Bah là c'est pareil, sauf que l'embout est pas fourni avec, aussi bien au Japon que chez nous.
D'accord. Les alim, ils ont un peu du mal, hein. Côté Nintendo, ils aiment pas trop les données, j'ai l'impression, parce que ce
marchandise
soit parce que la 3DS et la New 3DS sans alim, c'était quand même pas très gentil.
Et franchement, enfin, le système, tu sais, passer d'un jeu à l'autre, pouvoir faire des points de sauvegarde, avoir des points de sauvegarde dans les différents jeux, ce qui facilite quand même la tâche, hein, par rapport à ce qu'on avait à faire à l'époque.
Ah bah, oui.
C'était comme ça sur Wii U, hein, pour
ça c'est cool.
Là, la virtuelle console de la Wii U, c'était ça. Tu pouvais faire sur la
Wii aussi. Hein.
Sur la Wii aussi. Je crois pas.
Si, moi, j'ai joué à des jeux.
Non, mais genre, tu frises le jeu et tu reprends exactement à cet endroit-là.
Tu pouvais faire des.
C'est sur Wii U ça.
Non, sur Wii.
Sur Wii.
Ah bon?
Ouais.
D'accord.
Et
tant pour moi.
Et je trouve
vous
ça...
êtes deux, donc vous avez raison.
Je trouve ça cool. Oui. Bah, parce qu'en fait, je me rappelle d'un exemple particulier, tu sais, le Super Mario Bros. 2. Pas le nôtre, la version japonaise,
ouais,
qui
vrai.
Est ultra dur. Heureusement que je pouvais sauvegarder sur console virtuelle, parce que sinon, c'est recommencer à chaque fois du début, c'est à s'arracher les cheveux. Enfin bref, je trouve juste dommage qu'on puisse pas ajouter de jeux supplémentaires. Ça, c'est vraiment la, la grosse déception.
Parce qu'ils vont faire une
deuxième
après.
Édition après.
Par contre, quand t'écoutes les trailers, ils disent Nintendo, un truc du genre Nintendo Classic Mini Series. Famicom et donc je, vu comment ils tournent ça, je serais pas étonné qu'ils nous fassent la même avec la Super NES et la N64 ensuite.
Bah, c'est largement
en tout
possible,
cas moi je serais client pour les deux
pareil, mais bon il y a tellement de machines qui permettent aussi de faire de l'émulation
ouais mais quand t'as un côté, quand t'as un côté officiel c'est pas pareil
c'est
et
vrai.
En plus là t'as la forme de la machine parce qu'un émulateur finalement c'est, ça reste un logiciel
oui,
ou alors t'as les Retron, les choses comme la Retron qui sont des consoles
officielles. La Retron est magnifique je trouve, très belle console la Retron.
Là t'as la NES Mini, le Famicom Mini, c'est la console d'origine en tout petit. Je trouve que l'objet est cool aussi.
Ah, je suis d'accord avec toi. Pour
enfin, ils continuent
pour le coup, la
de nous prendre
mini,
pour des gogo en jouant avec la nostalgie. Et moi, comme je suis quelqu'un de nostalgique par nature, ça marche. Mais oui, je suis un gogo.
Un gogo danseur ou
non. Bon. Gogo danseur, mais pas tout le temps. Ça dépend des heures.
Tout ça pour dire que là, NX, on n'a encore rien. Voilà, comme chaque semaine, on refera la même chose la semaine prochaine. Vous verrez, ça sera.
Ah, si, il y a eu un truc où ils ont fait supprimer l'extrait d'interview. Là,
on en a pas parlé la semaine dernière.
Ah, c'était la semaine dernière déjà.
Je sais plus si on en a parlé la semaine dernière.
Non, la semaine dernière, on en a pas parlé.
On en a pas parlé.
Non.
Ah bah voilà, on peut l'ajouter au dossier.
Et bah oui, parce qu'en fait, il y a eu un event qui était organisé au Canada pour les médias canadiens tout simplement, et le responsable
c'est
communication.
Pas con.
Comme quoi ça arrive, le responsable communication de Nintendo au Canada répondait à des interviews et avec un site Pocket Lint, je crois que c'était ça. Il a commencé l'interview en disant tout simplement, je vous préviens que si vous me posez une question sur la NX, on va couper court à l'interview. Et le journaliste lui répond, ah, c'est aussi grave que ça. Il dit non, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, enfin qui nous parlent de ça dans leurs interviews, et on n'a rien à dire à ce sujet pour l'instant. Et quand la NX, quand on aura à parler de la NX, on fera un Nintendo Direct, truc comme ça. Le rebondissement de cette affaire, c'est que Nintendo a ensuite demandé que tout cet extrait d'interview soit supprimé, ce que le site a fait. Étrangement.
Mais pas Internet. Internet, c'est rapide.
Rien ne se perd sur Internet. Ça, c'est... Faire supprimer un bout d'interview, c'est le meilleur moyen de mettre ce bout d'interview en avant et en valeur. Enfin bref. Et donc, forcément, ça a fait spéculer beaucoup de gens sur le.
Comment
Nintendo
il a trouvé
Direct.
Le bout d'interview
Quelqu'un de NeoGaf, je crois, qui a vu ça. Mais alors après, les gens se sont dit, ah oui, ça veut dire que Nintendo va faire un Nintendo Direct pour annoncer la NX. Moi, je pense que c'est plus l'inverse. En fait, c'est qu'en voyant ça, ils se sont dit, les gens vont penser qu'on va faire, que c'est officiel, qu'on va faire un Nintendo Direct. Et ils ne voulaient pas que les gens pensent ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé à ce que ce détail soit supprimé. Mais bon, on verra. En tout cas, Nintendo fait supprimer des extraits d'interview.
Nintendo fait supprimer des extraits d'interview. Nintendo va pas parler de la NX. Nintendo qui est pas à la Paris Games Week.
Bon. Tu vois, ils vont te supprimer toi aussi.
Tu
fais
penses
gaffe,
ouais. C'est vrai, je pose beaucoup
arrive,
de questions.
L'exemple Mario qui sort de derrière le canapé, qui chope Plumeau et qui le fait passer derrière.
Mais bon, on va reparler de Nintendo tout à l'heure. D'abord, on va faire place à Ubisoft, messieurs, puisque c'était une grosse.
Le dossier de la semaine.
C'était une grosse semaine hein, pour Ubisoft. On peut commencer déjà par tout ce qui s'est passé ces derniers temps autour d'Ubisoft, qui a commencé à vouloir un peu mobiliser un peu ses troupes à base de site We Are Ubisoft, avec un hashtag We Are Ubisoft, avec Michel Ancel. Alors, Michel Ancel qui est presque inconnu sur Instagram, et tout d'un coup Ubisoft a pointé vers son compte en disant, ah, vous devriez surveiller un peu son compte. Alors évidemment, il y a eu une photo d'abord, pas celle-ci hein, que Poufi est en train de montrer, mais celle juste avant où il a teasé, mais comme un cochon hein, c'est le cas de le dire, hein, en parlant de BGE, il a teasé en gros
là, voilà l'image,
quelque
ouais.
chose qui est en rapport avec Beyond Good and Evil. Alors un 2, une préquelle, voilà. Quand on voit cette image, en tout cas, on peut être sûr que le petit personnage là sur l'épaule, c'est Pege, donc le copain de Jade dans Beyond Good and Evil, et que à tous les coups, le monsieur barbu qu'on connaissait pas, et ben c'est pas Joel de The Last of Us, non,
c'est, ce que
c'est
dire.
Le père de Jade, je pense, qui, et à mon avis, ils sont ensemble en train de construire le vaisseau qu'ils emploient dans Beyond Good and Evil. Mais bon, ce sont des suppositions.
Ça serait une préquelle, donc
ou ça peut être un flashback.
Ah, ou un flashback, tout simplement.
Voilà. C'est, après, tout est possible. Hein, donc,
Parce que les préquels, j'en ai marre.
C'est vrai.
Franchement, moi, j'aime bien faire progresser les histoires et pas revenir en arrière. C'est, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Il y a des très bonnes préquels, mais dans le concept, je préfère avoir des choses qui se passent après que des choses qui se passent avant. Et c'est comme ça pour le ciné, pour les séries. Les préquels, ça, je trouve que c'est inintéressant.
Bah ouais, mais tu es en train de faire une origin story sur Batman là, de Telltale.
Oui, ah oui, non, mais c'est pas pareil parce que
c'est pas pareil, c'est un truc que j'aime bien.
Mais non, parce que c'est une histoire inédite. Elle fait suite, enfin elle précède rien en fait. C'est un truc qui commence là.
Vrai,
en fait. Et tu vois, Yakuza 0, c'est une préquelle qui se passe 20 ans avant le premier Yakuza. Je vais le faire et je vais adorer. Mais je préfère.
Tu sais qu'au moment où on enregistre, 30 septembre 2016, ça fait 10 ans qu'Yakuza est sorti.
Oui, je sais.
Voilà. C'est ouais, tout, je voulais juste le signaler parce que tu parlais de Yakuza. Ouais. Bref, Michel Ancel donc, a teasé du Beyond Good and Evil 2, qui, le jour de l'Assemblée Générale, on va dire que tout le monde attendait ultra mouvementé, a balancé un autre artwork avec un requin avec écrit en légende, bah, on est prêt pour se battre, Ubisoft, Independence Day, ouais. Etc. Bref,
indépendance, c'est le mot de la semaine.
Apparemment, exactement. Ils l'ont répété 3000 fois pendant l'Assemblée Générale.
Ouais, ouais.
Ensuite, deux jours avant l'Assemblée Générale, Ubisoft a racheté une boîte qui fait beaucoup de jeux mobiles, qui ne fait même que ça, qui s'appelle Ketchup. Vous les connaissez forcément puisqu'ils ont édité notamment 2048. Et que je dise pas de bêtises sur les autres. Ça y est, je me rappelle plus des noms, c'est fou. En tout cas, ils ont édité 2048. C'est une boîte qui réussit plutôt bien, qui se place très bien dans le domaine du jeu mobile et qui fait que Ubisoft est de coup devenu quatrième acteur mondial du jeu sur mobile. Un beau coup avant justement de passer à cette Assemblée Générale et de savoir ce qu'elle est réservée. Vincent Bolloré.
Est-ce que c'est un pied de nez au fait que Bolloré ait racheté Gameloft?
Forcément.
Oui.
Forcément, c'est une manière de dire on va rester quand même bien costaud.
Mais là, tu vois qu'il y a une ouverture des vannes en termes de communication du côté d'Ubisoft ces derniers jours et une opération séduction du public. Et peut-être une tentative d'opération séduction des médias aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Mais avec BGE, dont on parle plus depuis des lustres ou très peu, là d'un seul coup, la semaine de l'Assemblée Générale, comme par hasard, Michel Ancel redébarque avec des artworks. Yves Guillemot accorde des interviews. Enfin, il y a plein de choses. Ils font des déclarations pour dire oui, même si financièrement c'est pas forcément intéressant, mais Assassin's Creed le prochain sortira quand il sera prêt. Ça sera pas forcément en 2017. C'est pour montrer, regardez, nous on soigne nos jeux, on veut pas faire n'importe quoi, etc. Enfin bref,
je pense que c'est une stratégie
de communication d'ensemble qui s'est jouée au cours des derniers jours.
Ouais. Et Julo, qu'est-ce que tu en penses, toi qui envoies des sextos là?
Non, c'est pas ça, c'est que j'étais en train de me dire, oui, il y a un truc que t'as pas dit quand même, j'arrive pas à me rappeler, c'est BPI, c'est ça?
Oui, la BPI, ils ont racheté pour combien? 3,2.
Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez raison, c'est cette semaine, on a vu la bataille de communication, mais c'est aussi une bataille boursière dans laquelle tout le monde imagine. Ubisoft perdre face à Vivendi,
enfin,
parce qu'il y a des
frères Guillemot, pas voilà, la boîte Ubisoft en elle-même.
Oui, le Ubisoft historique, je veux dire, perdre face à l'offensive de Vivendi, qui est une offensive boursière et qui se solde dans beaucoup de cas de la même manière à chaque fois, parce qu'il y a des règles qui sont ultra claires. Et d'ailleurs, c'est ce que s'est empressé de souligner plus ou moins directement Vivendi avec un communiqué après l'AG, mais on va en parler.
L'AG, on peut en parler.
Mais ce que je veux dire,
hein,
c'est que pour remettre les choses dans leur contexte, il y a une vraie bataille qui se met en place. On va dire, t'as deux adversaires, t'as le grand méchant requin là, comme le dessinait
Michel Ancel,
et puis t'as la boîte originelle qui doit se battre avec ses moyens et qui a du coup, enfin, je veux dire, qui a presque perdu d'avance, quoi.
Très si maniqué on... dans la représentation.
Voilà.
De la situation.
Donc ça, si tu veux, il y avait la bataille de communication sur, voilà, il faut se souder entre nous. Nous sommes Ubisoft.
Voilà,
donc,
tous les studios du monde.
I believe, qui
se prenaient
l'indépendance, faire venir des journalistes. Tu vois, ça, il y a eu vraiment tout le truc a été monté en mayonnaise.
Oui, c'est vrai qu'Yves Guillemot est devenu tout d'un coup un sac symbole.
Mais en même temps, c'est les seules armes qu'ils ont. Enfin, je veux dire. Enfin, c'est pas les seuls, parce qu'ils en ont d'autres. Justement, il y a l'arme boursière aussi, même s'ils ont moins de puissance que Vivendi, pour, enfin moins les coups d'effranche que Vivendi, qui peut simplement injecter et grimper au capital petit à petit, ce qu'il fait depuis des mois maintenant. Voilà, il y a aussi une bataille boursière, et même à ce niveau-là, Yves Guillemot et Ubisoft essayent de s'arranger pour rendre la tâche difficile à Vivendi. Voilà, donc ça, ils l'ont fait quelques jours avant. Et du coup, quand même, le moment où commence cet AG jeudi, Vivendi, Bolloré n'est pas là, mais Vivendi a évidemment quelqu'un de dépêché sur place. C'est quelqu'un qui va finalement ne rien faire du tout de toute
qui va se contenter de s'abstenir sur tous les votes.
Et voilà, ça a fait quand même échouer quelques
résolutions,
quelques résolutions a priori, c'est ce qu'ils disaient dans leur communiqué.
Bah, ils ont 20,2% des votes, Vivendi. Donc bah forcément, ça se voit au moment où ils sont.
Alors ça n'a pas empêché Yves Guillemot d'être réélu, j'allais dire, mais d'être
reconduit
dans son mandat. Mais très clairement, enfin, je veux dire, c'est une bataille surtout médiatique, je trouve, qui a été gagnée. Et la bataille, la vraie, la bataille boursière, elle va continuer.
L'AG en elle-même,
sans faire de grands mouvements de bras, Vivendi va, à mon avis, se repasser à l'offensive.
Parce que l'AG, on en parle pas,
mais ça va
être
beaucoup plus pragmatique.
Il s'est strictement rien passé pendant cet AG, c'est-à-dire que il y avait énormément de journalistes qui étaient sur place, qui commentaient la chose d'ailleurs sur Twitter en disant bon bah il se passe rien, bon bah alors Vivendi va peut-être faire une résolution. Ils s'attendaient visiblement à ce qu'il y ait un mec qui ouvre la porte.
Demandé à être présenté au conseil.
Ouais,
ça,
mais
c'est...
ils ont pas fait.
Ils l'ont déjà demandé.
Ouais, ils l'ont demandé, mais ils ont pas fait de résolution. Durant l'assemblée générale.
Mais il y avait pas de résolution là-dessus.
Et donc là ils s'attendaient, tous les journalistes s'attendaient justement à ce qu'il y ait un mec qui sorte comme ça, genre comme dans les mariages, tu vois, le mec qui arrive qui fait non, moi j'ai quelque chose à dire au dernier moment.
Avec la marche impériale.
Voilà, avec Christopher Walken qui arriverait derrière, qui ferait le fils de pute. le prêtre aussi justement à la fin, bref, Wayne's World 2, bref, ça ne s'est absolument pas passé, mais il y a eu effectivement cette lettre, ce communiqué juste après de Vivendi qui, mine de rien,
le résumé du communiqué, c'est quand même voilà,
on vous a laissé peinard aujourd'hui,
on a 20% de la boîte, on a demandé à être représenté, on l'est pas, donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas on s'est abstenu sur tous les votes, mais enfin, virgule. L'année prochaine, on aura le double. Alors ça, a priori, s'ils le disent, c'est que c'est vrai, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc, en 2017, le poids de leur vote sera double.
Oui, bah c'est comme ça au Millborne. Des fois, t'as une carte, tu la joues comme ça. Voilà. Et hop, t'as les voix qui ont double. Je sais pas.
Voilà, aller dire directement sans repasser par la case départ. Genre. Non, bah c'est assez bizarre, mais voilà, c'est une menace. Je veux dire, c'est l'épée de Damoclès qui est à nouveau soulignée.
Ah bah ça veut clairement dire. Oui, bon, ok, aujourd'hui on vous a laissé peinard, mais demain.
C'est que chez Ubisoft, ils connaissent la méthode Bolloré dans les assemblées générales. Ses coups d'éclat et ses prises de parole inopportunes et son piratage de certaines assemblées générales et le show Bolloré qu'il peut faire. Donc ils s'y attendaient et ils s'y étaient préparés. C'est pour ça que tout le monde avait des t-shirts. Là, ils se seraient retrouvés face à un public super hostile. Et donc c'est pas forcément la situation dans laquelle
ils
voulaient
continuer à la jouer en scred.
Voilà. Donc là où c'était, t'avais tous les médias qui étaient présents, tous les employés qui étaient mobilisés avec les t-shirts, les slogans, machin. Ils ont rien fait, mais faut pas se leurrer. Vu la fin du communiqué, Vivendi continue son activité, sa lancée dans le jeu vidéo. Chez Gameloft, les premiers résultats sont satisfaisants, machin. Je pense que c'est loin d'être terminé et c'était juste patienter pour pouvoir mieux prendre son élan.
Et ça se trouve, peut-être qu'ils feront rien.
Ça m'étonnerait.
Peut-être qu'ils vont se contenter de leur situation là. Remarquez, enfin.
C'est le style.
C'est pas le style.
Ils l'ont fait. Si.
Ils l'ont fait avec Bouygues en 99. C'est
exactement.
Ça, non
ouais. Exactement. C'est-à-dire que ils testent, ils y vont, machin. Ça marche pas, ils se cassent. Et tant pis pour toutes les parcs
et
qu'ils
même
ont
là, achetés. Faut quand même regarder que la.
Enfin, je les vois pas faire ça. Ils ont l'air déterminés là, quand même.
Mais la capitalisation boursière d'Ubisoft en un an a pris quelque chose comme 100%. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 2 milliards à 3,9 milliards. Donc imaginez, même déjà là, maintenant, ils disent oh bah c'est bon, en fait, on s'en débarrasse. Ils se font un blé fou. On est d'accord.
Ouais.
Donc bon, mais bon, ils ont l'air vraiment déterminés.
En utilisant leur propre aura pour faire augmenter le
absolument.
Truc.
Après, le business, c'est le but, c'est d'être rationnel. Hein. Mais peut-être qu'ils ont été piqués dans leur ego aussi. Hein, le fait de se retrouver face à.
Là, ils se sont retrouvés avec une armée, avec des journalistes autour, de gens qui avaient envie de leur dire non. Ouais. Voilà.
Donc peut-être que ça va les motiver encore plus pour pardonnez l'expression, mettent le nez dans leur merde.
Après, tu sais, dans le business, il y a pas. Enfin, je veux dire, il doit pas trop y avoir de place pour l'affectif.
C'est ce que je dis, c'est rationnel principalement, voilà. Mais des fois, au bout d'un moment, enfin, peut-être que c'est assez dit la baleine, quoi.
Ouais, on verra, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut ironiser un petit peu sur le côté un peu too much de la démonstration d'Ubisoft.
Pourquoi tu dis ça, parce que
c'est vrai qu'il y a pas mal de...
Pourquoi tu dis ça?
Oui, bah oui. Enfin... Mais il faut quand même...
Mais il faut voir le côté affectif, justement.
Bah
ouais,
mais moi, il y a quelque chose que j'aime bien là-dedans, quand même. C'est quand même une boîte qui se défend. C'est des employés qui sont porteurs, parce que pour être à la conférence, j'allais dire...
Assemblée générale.
Le synapsus. Pour être à l'Assemblée générale, il fallait être porteur d'action. Il y a eu un plan avec les employés d'Ubisoft pour qu'ils achètent eux-mêmes des actions, etc.
Qui est ouvert un peu tard d'ailleurs, signaler un actionnaire durant l'Assemblée Générale.
Mais il me semble qu'il le faisait déjà avant, mais par période en fait. Il proposait aux actionnaires d'être.
Mais il ne faut pas nier certains trucs aussi.
Aux employés d'être actionnaires.
Ils ont parlé beaucoup de créativité, etc. Nous, depuis que Gameblog existe, hein, maintenant près de 10 ans, on parlait d'Ubisoft en ces termes en disant voilà, on les sent libres, avoir envie de faire les choses différemment. C'était au moment vraiment d'un envol particulier de cette société, et ils l'ont fait avec beaucoup l'accent sur la créativité, sur l'inventivité, sur les nouvelles choses. Alors c'est vrai que maintenant ça paraît bizarre de le dire parce qu'ils tournent en rond avec leur saga Assassin's Creed, ce genre de trucs, mais je sais pas, enfin il y a quand même une aura et une fierté à voir une société française comme ça réussir autant et donc là du coup se défendre face à une espèce d'invasion boursière, quoi. Ben là, j'ai pas envie d'être ironique, quoi, tu vois. Pas totalement, tu vois, faut pas être débile et être angélique et tout. Il va se passer ce qui va devoir se passer, quoi. Mais en même temps, il faut pas décrédibiliser les termes qu'a pu utiliser Ubisoft, même si
c'est pas forcément les termes, voilà, c'est l'excès, on va dire, dans les choses. Mais après, maintenant le combat, ça va être de convaincre, on va dire, les petits porteurs, parce que certains ne sont pas forcément impliqués au sens artistique de ce que fait Ubisoft. Donc eux, leur but, c'est de gagner le plus d'argent possible avec leurs actions. Et on imagine qu'Ubisoft, enfin la direction actuelle d'Ubisoft, va essayer de continuer à augmenter son capital. Et pendant que Vivendi va certainement vouloir aussi augmenter ses billes. Donc qui va réussir à être le plus convaincant? Est-ce que le côté artistique de la boîte va l'emporter, ou est-ce que c'est le côté financier? Et genre, on vous propose tant d'argent pour vos actions.
Pour moi, la seule question, c'est est-ce que Vivendi va décider de laisser tomber ou de continuer? Pour moi, s'ils continuent, ils vont gagner. Enfin, tu vois, ça va être très compliqué, quoi.
Ils ont une cagnotte assez impressionnante.
Quand tu connais les règles, la façon dont fonctionne la bourse, enfin, je vois pas comment. Je trouve qu'ils se battent super bien. C'est ça qu'il faut souligner, et que c'est peut-être ça qui va faire peur, à l'actionnaire qui veut.
Mais je crois que David
Crockett
a fort à la mousse ici, bien battu, hein. Mais ouais. À la fin, ça s'est pas bien fini.
Non,
pour
mais
lui.
Je te dis, ça peut peut-être motiver, chez Vivendi, une envie de finalement pas y aller, quoi. Tu sais qu'il y a un historique quand même, hein. Electronic Arts avait tenté aussi, hein. Bon, c'était pas aussi agressif,
ouais.
Mais Electronic Arts avait tenté de prendre possession d'Ubisoft,
ouais.
Et ça avait loupé, hein.
Oui, mais pareil, les guillemots étaient un peu montés au créneau, et puis ça s'était calmé, et puis...
Là t'as l'impression franchement ils remuciaient les terres là, quand même, je trouve.
Bah, je crois qu'ils sont à la recherche. Il me semblait qu'Yvimo avait parlé de recherche d'un partenaire ou quelque chose comme ça, pour essayer de
pas
vraiment
pas d'un
rencontrer.
Seul, je crois. Et puis il
a fait
le tour de tous les actionnaires,
soutien de banque, etc. Ouais. Pour
et puis il a fait plus ou moins le tour de tous les actionnaires, en leur demandant s'ils comptaient le suivre lui et son idée, se rallier à Vivendi dans son offensive, quoi. Et je crois, voilà,
bon, maintenant on va mettre les pieds dans le plat.
Attends, juste avant, au niveau des votes pour le renouvellement du mandat de d'Yves Guillemot, faut noter qu'il y a, c'était pas 10%, c'était un peu moins, mais il y a quand même environ 10% des gens qui étaient contre.
Oui, absolument, ouais.
Donc il y a eu de l'abstention, il y a eu des votes pour, mais il y a aussi eu un petit peu.
Il en faut absolument. Bon.
L'abstention, c'était quand même plus de 20%. Ouais. Donc s'il a été à 65, c'est ça,
C'était peut-être 7 ou 8% dans ces eaux-là.
8% ouais. Et 65% pour c'est quand même la pas... reconduite de son mandat. Donc maintenant, on met les pieds dans le plat. Messieurs, on va regarder la caméra. Et si Disney rachetait Ubisoft ? Voilà, c'était mon idée à la con du jour.
Disney, ils veulent racheter
Twitter. Ils ont Marvel, ils ont Star Wars. Pourquoi pas Ubisoft après tout ?
Non, mais j'ai l'impression qu'Ubisoft, ils n'ont pas envie de vendre. La direction d'Ubisoft, les guillemots, ils ont envie de vendre à personne en fait. Bah, je pense pas que ça passerait mieux avec Disney qu'avec
Ubisoft. Le jeu de la bourse fait qu'à un moment, de toute façon, tu peux te retrouver dans cette situation. Quoi. Mm. C'est ça qui est triste.
Mais Disney, vu sa situation vis-à-vis du jeu vidéo, je pense que racheter un éditeur de jeu, c'est pas vraiment dans la des studios. Non, c'est pas vrai. Vu qu'ils ont viré tout le monde.
Je disais ça comme ça.
Non, mais je te réponds comme ça.
Ok, d'accord.
Alors, on va faire continuer le podcast comme ça. Julo, ça va ?
Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien. Mais c'est vrai que t'es sourd, toi. Ben voilà, c'était un petit peu notre condensé de ce qui s'était passé avec Ubisoft cette semaine et son assemblée générale qui finalement n'aura pas du tout été la tempête annoncée.
C'est pas une tempête, mais je trouve ça super intéressant, quoi.
C'est intéressant.
Dans l'actualité,
ça n'aura pas été le bain de sang. Non. Tout le monde. Non. Croyait que c'était la Saint-Barthélemy.
Tout le monde avait un peu envie de revoir. Tu sais les images qu'on a vues de Bolloré là, qui arrive dans les AG, qui monte sur scène alors qu'il n'y est pas invité. Dit, bah écoutez, enfin, je suis quand même.
J'aime beaucoup ce que vous faites, mais vous allez fermer votre gueule et puis je vais vous expliquer comment on fait.
Voilà, parce que j'ai un peu 20% de la boîte, ou 30, ou 40, ou 50, je sais pas, tu vois.
Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Mais ça viendra, non ? Je sais pas. Cool.
Pour les amoureux du
Ubisoft. Moi, je pense que là,
l'année prochaine.
Là, ils ont acté. Pour moi, Vivendi a acté un truc. C'est voilà, on vous a demandé d'être représenté, vous avez pas voulu, on vous a laissé faire. Ok.
À l'année prochaine.
Maintenant, je sais même pas si ça va être à l'année prochaine. Je pense qu'ils vont trouver des choses à faire jusqu'à l'année prochaine.
Je sais. Bah, ils peuvent augmenter leur capital parce que j'ai vu que avec Gameloft, ils ont augmenté leur capital pour finir par avoir la totalité.
Le contrôle. Ouais.
Mais les choses ont été actées qu'à l'assemblée générale, qui pour le coup tombait l'assemblée générale annuelle de Gameloft tombait juste après, donc il n'y a pas eu une grosse attente. Mais je me demande s'ils peuvent faire quelque chose, s'il peut y avoir un changement de direction avant la prochaine assemblée générale qui sera l'année prochaine.
Bah, suite à une démission, je crois uniquement. Hein, je sais pas.
Ah peut-être, je sais pas.
Non, franchement, je vois pas.
J'ai pas assez creusé le sujet pour ça.
On va en creuser un autre maintenant de sujet.
Prenez vos pelles.
Puisqu'on va parler de la Paris Games Week. La Paris Games Week, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ? La Nintendo, ils ne veulent pas aller à la Paris Games Week cette année ?
Moi, je pense qu'on la prend vachement tard. C'est marrant.
Mais moi, j'ai un souvenir de Nintendo à la Paris Games Week depuis des années. Ils prennent une place monstrueuse. Ouais. Ils occupent quasiment un quart d'un rôle à eux tout seuls. Ils ont des tournois de Smash Bros, de Mario Kart. Ils ont des tas de bornes partout. Et là, rien cette année. Rien.
Ils sont quand même dans une espèce de phase de transition. Hein, donc
Déjà qu'on n'apprend rien sur la NX. Et en plus, bon, on
la
verra même
toi,
pas.
Toi, tu voulais la NX au Paris Games Week.
Bien sûr,
ça, tout simplement. Ouais.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la Paris Games Week ? C'est un sacré coup pour la Paris Games Week de ne pas avoir Nintendo cette année, sachant qu'en plus, on en parlera après, mais il y a d'autres.
Bah, c'est un gros morceau.
C'est pas avoir Nintendo, mais. Avoir Nintendo pour avoir Nintendo, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce qu'ils nous auraient mis. S'ils avaient fait un stand cette année, s'il n'y a pas la NX, ils nous montrent quoi ? Les jeux 3DS qui ont été annoncés récemment sont dans certains cas des portages de jeux Wii U, déjà sortis depuis un moment. Donc tu présentes ça, il me semble que ce sont des jeux de début d'année prochaine en plus.
Ah, tu parles de Pikmin et Super Mario Maker.
Mais ce que disait Plumeau, c'est que même les autres années, si c'était le cas, ils occupaient le terrain en faisant des tournois.
Mais voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est faire des tournois avec
en existant, quoi. Dans le plus gros événement français.
Mais là, le problème, c'est que la Wii U, elle n'existe plus.
Voilà,
quoi.
Bien sûr, la Wii U, elle est à l'agonie totalement. Mm. T'as quoi ? Un jeu cette fin d'année. Alors après, oui, tu peux faire des tournois de Smash Bros, tu peux faire des tournois de Mario Kart, mais ça reste des tournois de jeux sortis il y a deux ans. Quoi. Est-ce que c'est l'image que tu veux renvoyer
toute la folie autour de Pokémon, c'est quand même le moment aussi de dire venez sur notre stand, on a plein de peluches Pikachu, on a plein de Pokémon Go Plus.
Ils auraient pu mettre Pokémon Soleil et Lune, effectivement, mais
organiser des rencontres autour de Pokémon Soleil et Lune, je sais pas, des trucs
une zone d'échange ou des choses comme ça.
Enfin, tu vois, ils avaient des tas de possibilités, mais là ils disent
mais là encore, c'est que de la 3DS. Tu fais un stand avec que la 3DS. J'aurais bien aimé avoir la justification de Nintendo pour l'absence de stand, mais je sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer en fait.
Bah, je crois que c'est un moment de transition, tout bêtement.
C'est reculer pour mieux sauter.
C'est histoire de dire bon bah là on n'a pas besoin de mettre toutes nos forces dans une Paris Games Week, sachant qu'on a la NX qu'on essaie de préparer et on va essayer de vous l'annoncer un jour. Parce que normalement elle sort, c'est sorti
elle sort
en
le
mars.
7 mars, il nous l'annonce le 6.
Ouais, mais c'est
exactement available ça. Tomorrow.
Donc, enfin, je veux dire, là ils ont pas besoin peut-être pour eux en tout cas d'aller à la Paris Games Week.
C'est ça. Mais la question c'est est-ce que c'est un coup dur pour la Paris Games Week surtout finalement.
Alors, les avis sont partagés de ce côté.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que les gens vont à la Paris Games Week de base pour jouer aux jeux Nintendo? Ils y vont pour jouer à
Call of. À chaque fois abondé.
Ouais, mais j'ai jamais vu de queue incroyable sur un stand Nintendo à la Paris Games Week. Les gens vont jouer à Call of, les gens vont jouer à FIFA.
À Calaf, tu veux dire?
À Calaf.
Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas la fréquentation d'un Assassin's Creed ou d'un Call of Duty à chaque fois. Mais il y a quand même du monde à chaque fois.
Oui, il y a du monde. C'est sûr.
Bon, plus jeune peut-être aussi. Un public est peut-être un peu plus jeune que les ados qui vont voir Call of Duty, mais il y en a d'habitude. Hein.
Vous voulez pas parler de la Paris Games Week hein.
On sait que Microsoft n'aura finalement pas de conférence non plus. Sony ne remet pas le couvert. Donc déjà, pour les professionnels, cette année, le salon prend quand même un gros coup. Après, pour le grand public, apparemment, il gagne en envergure. Mais oui, ça devient vraiment... En fait, le potentiel professionnel,
c'était censé remplacer la Gamescom. Moi, j'ai quelqu'un qu'on fréquente ici, hein, qu'on connaît bien, qui nous disait, elle va remplacer la Gamescom.
Non, mais c'est surtout que l'année dernière, on pouvait légitimement se poser la question, parce que quand même, tu avais un énorme salon. Il y avait une conférence PlayStation qui avait été annulée de la Gamescom pour être faite... À Paris, au Paris Games Week. Nous, professionnels, ça vous le savez pas forcément, mais on avait des rendez-vous sur place pour aller jouer à des jeux non sortis, faire des impressions. Donc, si vous regardez.
Assister
à des présentations de jeux, etc. Cette année, donc, Sony n'a pas remis le couvert pour la conférence. Donc la dimension internationale de la Paris Games Week a immédiatement sauté.
Ouais.
Nous, on n'a pas de rendez-vous particulier sur place, en tout cas pas pour l'instant. On sera présent, bien entendu, on va couvrir l'événement, bien entendu, mais disons qu'il n'y a pas la même ferveur et le même côté professionnel et international qu'il y avait l'année dernière.
Bah, l'année dernière, il y avait des médias étrangers qui avaient fait le déplacement.
Bah, normal.
Cette année,
il y avait la conférence.
Faut pas se mentir, cette année, les médias étrangers n'ont strictement aucun intérêt à venir à la Paris Games Week. Vraiment. Donc, toi, tu parlais de recul ou de perte d'intérêt, mais ça, c'est une réflexion qui est égoïste, on va dire, parce que ça ne concerne que médias, jeux vidéo. Après, pour le grand public, le salon conserve son intérêt.
Mais pour le grand public, enfin, je veux dire, est-ce que le timing n'est pas mauvais là pour cette Paris Games Week, sachant que par exemple, un des événements de cette fin d'année, c'est le PlayStation VR qui sort le 13 octobre, donc 2 semaines avant la Paris Games Week. La plupart des grands jeux seront sortis à ce moment-là, hein, puisque ça se déroule
ça,
du 27 au 31 octobre.
Mais regarde la queue pour jouer à FIFA ou à Call of chaque année. Les gens s'en foutent que les jeux soient sortis depuis 2 semaines.
Quand tu l'as pas,
les gens peuvent pas acheter tous les jeux tout de suite. Donc pour le grand public, finalement, le salon sera aussi intéressant que l'année dernière. J'aurais même tendance à me dire que
plus
les quantités mises sur le marché de PlayStation VR, par exemple, il y a la grande majorité des joueurs qui n'auront pas eu l'occasion
d'essayer.
Moi, je pense
que pour le grand public, ouais, ça va être un salon super intéressant. Les mecs, ils vont pouvoir voir la PS4 Pro.
Ouais.
Quand même, hein, qui vient d'être annoncé.
Qui sortira le 10 novembre.
Voilà, qui sera pas encore sorti, elle. Et donc, ils pourront voir. Alors, c'est vraiment mieux.
Elle sera pas encore sortie. Ça se trouve, elle sera déjà échappée d'Arabie Saoudite. Et du coup, elle sera déjà chez des dizaines
et
de personnes.
Et ils vont pouvoir quand même essayer ce qui va être la curiosité de ce Noël, quand même, le casque de réalité virtuelle, le
même
PlayStation
si
VR.
Il y était déjà un petit peu l'année dernière.
Oui, mais là, on est
là, on a la version finale.
Là, tu vas pouvoir jouer à un certain nombre de gros titres de la fin d'année. Même ceux qui seront déjà sortis ou qui sortiront à ce moment-là, pour le grand public, l'intérêt est toujours là. C'est juste nous qui avons essayé, voire testé un certain nombre de ces jeux. Là, ça n'aura pas forcément d'intérêt parce que les éditeurs profitent pas de la Paris Games Week pour présenter des jeux qui sortiront dans les 6 mois qui suivent, à quelques rares exceptions près.
C'est marrant parce que quand t'es rentré de la Gamescom, on se disait finalement la Gamescom, c'est en train de devenir le Paris Games Week mais allemand.
Ouais.
Et là, maintenant qu'on voit un peu la direction que prend le Paris Games Week, on se dit le Paris Games Week, pareil, qui était devenu un peu autre chose l'année dernière, ça redevient un Paris Games Week, quoi. Donc finalement, c'est peut-être les deux qui sont en train de.
Avec c'est l'Europe en fait qui est en train de crever tout bêtement.
Oui, c'est ça.
C'est juste tout le monde s'en fout de ce qui se passe en Europe. Hein.
On a eu confirmation que Sony referait un PlayStation Experience, donc on sait qu'on aura une autre conférence à la fin de l'année. Il y aura les Game Awards justement juste avant, donc là certainement peut-être des annonces, des nouveaux trailers, etc.
Microsoft a parlé aussi d'un autre temps fort avant la fin de l'année, hein, si je me souviens.
Ah, ça me dit rien.
Il me semble que Philou avait expliqué que même s'ils n'étaient pas à la Paris Games Week, ils allaient faire encore un autre truc avant la fin de l'année.
Ah bon, ça ne me dit rien.
Ça se trouve, c'est passé. Hein. C'est possible. Fait un truc avec des fans il n'y a pas très longtemps.
Mais tu vois, Sony, là, qui depuis il y a eu le 3, il y a eu la conf 3. Là, ensuite, il y a eu la conférence à New York. Bon, c'était juste l'annonce de la PS4 Pro. Plus la conférence TGS juste après, refaire une conférence là, ça faisait peut-être beaucoup, sachant qu'il y a le PlayStation Experience juste après. Mais on verra. Moi, je trouve ça dommage parce que franchement, ça m'enthousiasmait bien que la Paris Games Week prenne une envergure événement médiatique un peu, tu vois. C'est dommage. Alors peut-être que ça reviendra l'année prochaine, je ne sais pas, mais je trouve qu'elle avait un bel élan l'année dernière à ce niveau-là, et là ça retombe énormément, quoi. Là on en revient au point zéro avec Nintendo.
Peut y avoir aussi vous savez dans les raisons qui font que on freine un petit peu, vous savez que nous sommes dans une période de tension en France, qu'il y a eu pas mal d'attentats aussi, et ça fait partie des éléments à prendre en compte aussi, hein.
Bah je ne sais pas, parce que le salon en termes de taille et de superficie, etc., je crois que doit encore augmenter cette année, enfin
ouais. Donc oui, mais après je parle pour les éditeurs et les constructeurs, hein, je parle.
Ah, tu veux dire par rapport à des conférences ou des choses comme ça.
Ah, peut-être qu'il y a des craintes qui sont placées de leur côté, hein, on sait jamais.
Peut-être.
Enfin bon, tout ça pour dire que la Paris Games Week donc devient un peu plus.
Bah qu'elle française. Remplace pas la Gamescom.
Ouais, voilà, elle remplace pas la Gamescom, voilà. Donc vous pourrez regarder différentes vidéos et peut-être vous poser des questions. Oui.
Non, moi je comprends pas la Gamescom, en fait. Ça m'échappe. Faire un salon en Allemagne 2 mois après. Un salon où t'as énormément de jeux consoles présentés 2 mois après
le, c'est le 3. 3 européen, voilà.
Oui, mais pourquoi Cologne, quoi ? Fais ça ailleurs, fais ça à Londres, fais ça à Paris. Fais ça à Paris à l'époque de la Paris Games Week. Ça me semble beaucoup plus cohérent que de faire ça 2 mois après le 3 en Allemagne.
Parce que Cologne, c'est assez accessible.
Enfin, pourquoi le faire quand tous les jeux sont sortis ?
Mais non, parce que tu regardes, le 3, il te présente les jeux qui vont sortir à la fin de l'année. Et font des premières annonces pour des jeux qui sortent.
Mais ça, c'est ce que je disais l'année dernière.
Et là, à l'automne, tu montres des jeux qui sortent dans les 6 mois
si
qui suivent.
Si c'est fait comme ça, c'est formidable.
Là, c'est ce qu'ils devraient faire. Enfin, si c'était moi qui organisais, je ferais ça comme ça.
Mais moi, c'est ce que je disais l'année dernière. Quand on voyait le Paris Games Week prendre le pas, on dit là ou le Paris Games Week?
Moi, je dirais là parce que c'est une semaine. Mais okay. Après,
moi, je dirais le, c'est un salon.
Ouais, bon, chacun son truc. Hein.
Alors,
comme le ou la selfie.
Quand on voyait Paris Games Week l'année dernière prendre le pas un peu sur la Gamescom, justement grâce à la conférence Sony, etc., et qu'on s'imaginait un peu la suite des événements, comment faire pour véritablement tuer le salon allemand qui est mal positionné dans l'année, c'est-à-dire 2 mois, t'as raison, après le 3. Et je me disais, il faudrait effectivement présenter les jeux, les next, quoi.
Ben oui.
Ceux de fin 2017 ou de mi-2017.
Ça te fait deux gros temps de communication médiatique cohérents, en fait, avec chacun son intérêt. C'est. Ouais.
Bah, ce ne sera pas le cas.
Non. En tout cas, pas cette année.
En tout cas, on ira. Voilà, on ira faire un tour quand même.
Bah, bien sûr qu'on ira.
Parce qu'il faut. On ne sait jamais. Imaginez, il y a peut-être des petits trucs qui peuvent être annoncés.
En fait, Nintendo avait menti, il y a un immense stand NX en plein milieu du salon.
Ça se trouve, il y aura un stand de Zelda Breath of the Wild gigantesque et ils ne nous auront pas prévenus. Sait-on jamais.
Revenez genre au 1er janvier 2016 et dites-vous genre dans les prévisions.
Ouais.
Bon, moi cette année je pense qu'à l'E3 Nintendo aura juste un stand Zelda et ils n'auront pas du tout de stand à la Paris Games Week, et la NX on n'aura rien vu. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que les choses se passent
déjà
comme ça?
Le mois dernier, moi j'imaginais qu'ils étaient obligés d'annoncer la NX en septembre, et regarde, d'ici quelques heures là je suis censé me pendre.
Mais tu sais, moi je suis pas convaincu que ça ait pas fait partie des plans de Nintendo à un moment, et que pour X raisons ça ait changé. Ça semblait cohérent, il y avait différents éléments qui quand même semblaient indiquer de manière assez poussée que c'était pour septembre. Après, peut y avoir des problèmes. Tu sais, les retards de jeu ça existe, alors les retards d'annonce ça existe aussi.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, en tout cas, on verra. L'année dernière, Square Enix nous avait régalé avec quelques avant-premières. On s'en
Mais
souvient.
Là encore, c'est parce que c'était dans un contexte de salon qui prenait de l'envergure. Ouais. Là, est-ce que t'as envie de faire des grosses annonces cette année?
Bon, ils l'ont fait sur leur scène à chaque fois. Hein. Ils ont pas fait ça genre dans une conférence, quoi. Ouais. Que ce soit pour Nier ou pour d'autres jeux, c'était sur scène que les mecs arrivaient. Oui, coucou. Bah regardez, il y a
ça et puis il se cassait. Oui,
mais
c'était réglé.
Oui, mais ça, c'est ça. Je veux dire, c'est parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait plus de médias que d'habitude, etc.
Ouais.
Qu'il y aurait plus de regards tournés vers la Paris Games Week. Là, cette année, t'as pas.
Tu penses qu'ils vont tous faire aucune... les Shy Guys et que quand on va les regarder maintenant, ça, ils vont faire comme ça, ils vont se retourner.
Il y a aucune, conférence. Il y a un stand en un gros stand en moins. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que pour le coup t'as vraiment envie de faire une annonce tonitruante pendant cette Paris Games Week? Finalement les médias étrangers ne vont pas du tout s'y intéresser. Enfin je sais pas.
Mais je crois qu'on est tous là en fait, on sait pas. Voilà, on a tous le regard dans le vide à se dire mais
on va aller se coucher.
Mais
ouais.
Tu vois en fait, il faut pas que
mais
les gens méprennent.
Qu'est-ce qu'on va faire de cette Paris Games
Week? Les gens faut pas que les gens méprennent notre déception pour un manque d'intérêt du salon.
Ah non, pas du tout.
Je pense que je serais à la place du grand public. Moi, je serais ravi d'aller à la Paris Games Week, essayer plein de jeux que j'ai envie d'essayer par curiosité.
Te lever à 6h du matin, aller faire la queue pendant 3h pour jouer à Call of Duty. Toutes ces choses-là qui te passionnent, toi, dans la vraie vie. N'est-ce pas, Romain?
Non, mais
j'aurais pas dit mieux.
Tu rigoles? Non, tu rigoles.
Mais moi,
j'ai pas toujours été dans la presse.
Ouais.
Quand j'étais gamin,
je me rappelle. Je faisais la queue. Hein. D'ailleurs, comment ça marche chez Disneyland?
Bah, non, mais je me rappelle être allé au salon du jeu vidéo. Vous vous souvenez de ce salon du jeu vidéo qui a existé 2-3 ans
en
avant de se faire? Bah, c'était quoi, 2005, 2006?
Bah oui, c'est le festival du jeu vidéo.
Festival du jeu vidéo, voilà.
Ah, mais oui, bien sûr.
Je me souviens du Micromania Game Show où j'allais faire la queue pareil pour jouer. Je me souviens de la Japan Expo où à l'époque, où à la Japan Expo tu pouvais essayer des jeux en avant-première, bah je faisais comme tout le monde, hein. J'allais faire la queue, j'attendais, j'étais bien content d'avoir joué à Dead Rising
jeune,
à la Japan Expo.
Dans ta vie d'adulte aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'avoir envie de faire la queue.
Ah, maintenant tu me payes, j'y vais pas.
On en est tous au même point en fait, c'était ça que je voulais faire comprendre. Je te visais pas particulièrement
non, je sais.
Dans l'affaire. Bah voilà pour la Paris Games Week, donc rendez-vous à partir du 27 octobre pour savoir effectivement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce salon.
Vous aurez une couverture complète sur gameblog.fr.
Et quand on dit, complète, c'est intégral.
On vous prépare un tour de stand Nintendo
aux petits oignons.
Non, mais regarde, enfin, il va y avoir la PS4 Pro, ouais. Le PlayStation VR, des gens.
PS4 Pro déjà.
Mais non, mais des gens à interroger. Il y aura des choses à faire sur la Paris Games Week quand même, bien sûr.
Non mais bien sûr, évidemment. Mais il y aura peut-être moins de choses. Bon bref.
T'arrêtes de dire mais.
On va passer
un truc. Allez, bon, on s'arrête là. Ça
on va passer au troisième thème de la semaine et c'est pour ma gueule. C'est Dishonored.
Oui, mais...
De quoi?
Non, rien.
De quoi?
J'ai dit oui mais.
De quoi? Quoi?
Là, quoi? Okay. Non, rien.
On va parler de Dishonored 2 puisque j'ai eu la chance d'y jouer et je sais que ça fait partie des jeux qu'on attend le plus pour fin d'année.
La rédaction de Gameblog.fr l'avait élu jeu le plus attendu de 2016 après l'E3. Parce que finalement,
jeu le plus attendu de la fin d'année 2016, quoi.
Oui, voilà, c'est de ça. 2016, ouais.
Non, parce que ça fait de la fin d'année 2016. Parce que je crois qu'il y avait le début aussi.
Vous savez à qui vous faites penser tous les deux depuis tout à l'heure?
Les deux vieux de Muppet Show.
Ouais, les deux petits vieux du. C'est comment ils s'appelaient?
Non,
Walt Statler et Waldorf.
Je sais plus.
J'ai pas dit de la fin.
Hein, si. Mais il faut le dire que c'est de la fin. Bon.
De la fin d'année,
je voilà, de la fin d'année 2016. Alors, tu voulais continuer quoi?
Mais putain, le salon il est en juin, donc forcément c'est la fin 2016.
Bah oui, mais on l'a précisé, moi j'y peux rien. Hein?
Quoi on a précisé?
Bah que c'était la fin d'année 2016.
Et Poufi, on va les laisser, non?
Bon bref, tu voulais ajouter quoi?
Ta gueule.
Ok, merci. Donc Dishonored 2, j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'était la première fois qu'on y jouait parce qu'on a vu surtout les trailers, des bandes annonces,
ah,
des vidéos.
Les trailers.
Putain, alors,
je vais être relou.
Ça va être dur. Ah, Julo, il est déchaîné, ça y est.
Ok, non, vas-y.
Faut que tu dormes la nuit, hein, parce que là, ça va être ça va être tendu pour finir le podcast. Hein, sinon, tu vas te retrouver avec une baffe. Bon, bref, Dishonored 2, on va pouvoir remettre les images pour les premiums. J'ai pu essayer donc le manoir qui avait été présenté durant la Gamescom. Un manoir de l'horloger.
Attends, il se passait jamais rien à la Gamescom, je comprends pas.
Bah ouais, mais là, ils ont montré des vidéos cette nouvelle section qu'on pourra évidemment jouer soit avec Corvo, qui était le héros du premier Dishonored sorti en 2012, soit avec Emily, qui est cette petite princesse qui est devenue une grande jeune femme qui aime bien aussi manier des armes et de la magie. Donc ce que j'ai pu voir, et ça vous allez pouvoir le constater dans la preview vidéo déjà que nous avons postée sur Gameblog, eh bien c'est un endroit qui est artistiquement magnifique, avec des systèmes de mécanismes un peu comme une horloge en fait, hein. Vous actionnez un levier, tout d'un coup
tout un mécanisme
passe, tout autour de vous fait que le décor change. Vous étiez dans un
c'est gore, hein.
C'est assez gore aussi au niveau des
combats, la vache, ouais. Cette exécution là elle est
Bah alors, on peut en parler des combats. Les combats, c'est ultra péchu. Évidemment, c'est un jeu qui demande, qui fait aussi une, comment dire, qui laisse une grande part à l'infiltration. Mais alors, au niveau des combats, c'est,
Il a bien infiltré l'épée dans le cou de son adversaire.
Ah ouais, c'est, ils n'hésitent pas quoi, que ce soit Corvo ou Emily. Bon alors, quand c'est pas des mouches, évidemment, hein, quand c'est des adversaires de chair et d'os. Système de parade, si vous arrivez à bien enchaîner ensuite avec, avec vos coups d'épée, quand vous n'utilisez pas évidemment des fléchettes tranquillisantes ou des fusils explosifs et je ne sais quoi d'autre comme grenades, et sans parler des pouvoirs évidemment comme celui de se téléporter ou de créer des petites tornades ou encore de ralentir le temps, de faire de créer une chaîne de mort en marquant un personnage et du coup tous les autres autour de lui meurent en même temps que lui. Bref, au niveau des combats, c'est ultra 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 péchu. Vraiment, c'est très 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 bien foutu, avec la possibilité par exemple d'agresser depuis la hauteur, de tomber sur quelqu'un, et là la mise en scène fait que
ça me fait penser à quelque chose.
On y est quoi. Ça te fait penser à quoi?
De quoi? De tomber d'en haut sur quelqu'un que t'assassines,
comme Assassin's Creed, absolument, ou même Deus Ex, hein, d'ailleurs. Ça reprend d'ailleurs, j'ai l'impression que ça a beaucoup pioché, hein, un peu partout.
Oui, par contre, ils ont une véritable identité, je trouve,
visuellement,
même si ça ressemble un peu à BioShock.
C'est ce que j'allais dire, moi ça me fait penser à BioShock.
Ouais, alors surtout cet endroit là en fait, hein, ce manoir, ça fait vraiment Andrew Ryan dans Rapture.
Andrew Ryan présente.
Ouais, l'extérieur, voilà. Ça faisait un peu Columbia aussi, ouais. Je trouve.
Non, mais surtout Andrew Ryan qui te parle, qui dit à propos, je sais que tu es là, blablabla, avec tous ces petits jouets, hein, ces soldats mécaniques là qui s'agitent autour, et lui qui vient se présenter, qui te parle avec un langage assez assez soutenu, etc., qui n'arrête pas de commenter tout ce que tu fais, qui te fait passer un peu pour l'idiot du village à chaque fois que tu vas t'écarter un petit peu du point d'intérêt vers lequel tu devais aller, parce que c'est un petit jeu pour lui, hein. Lui, il est tranquillement dans son laboratoire, mais toi tu dois aller sauver un monsieur, un copain de la famille, j'ai envie de dire, qui s'appelle Sokolov, c'est ça? Oui, Sokolov. Eh bien, tu dois aller sauver. Le but, c'est d'aller donc dans un espèce de labyrinthe.
Comme dans Metal Gear.
Sokolov. Oui, il y a un Sokolov dans Metal Gear.
Bah oui, bien sûr.
Ouais, mais il y a de Sokolov partout, j'ai l'impression.
Tu dois l'exfiltrer, Sokolov, si je me souviens bien.
Il y a aussi Sokolov Duty.
Ah oui, c'est vrai. Je l'avais oublié celui-là. J'essaie de réfléchir en même temps que je parle, mais c'est compliqué parce que j'ai rien trouvé des jeux de mots aussi, mais je ne pourrais pas. Bref, vous pouvez voir, si vous êtes premium à l'écran, c'est donc un endroit qui est totalement amovible. Avec, vous arrivez d'abord dans un hall, il n'y a pas grand-chose à part 2-3 vitrines, et puis tout d'un coup, vous tirez un levier, et là, ça change complètement. Il y a un grand escalier qui s'ouvre pour aller au premier étage, il y a d'autres vitrines qui se mettent en place, il y a un ascenseur qui arrive. C'est assez déroutant, ça me fait beaucoup penser à du Jules Verne en termes esthétiques, de tout ce que ça peut inclure, de Nautilus. J'imaginerais bien de Nautilus avec ce genre de mécanisme à l'intérieur.
Un petit côté steampunk donc peut-être.
Il y a un petit côté victorien, un petit côté steampunk, un petit côté Jules Verne. C'est très agréable à regarder, c'est très agréable à jouer parce que évidemment la composante infiltration est très bien rendue. J'ai pas eu beaucoup de conduits d'aération. Vous savez, dans tous les jeux, Deus Ex a encore l'a fait ces derniers temps, il y a des conduits d'aération qui sont bien placés. Vous ouvrez votre truc, vous passez, vous arrivez pile là où vous vouliez. Mais là, j'en ai pas eu pour ce niveau-là, alors j'ai pas joué non plus pendant des heures et des heures et des heures. Mais au moins, j'avais pas ça. Et il y avait quand même pas mal de petites possibilités, dont des possibilités de tuer ou non les gardes que vous croisiez. Et même, je vais parler du grand méchant de ce niveau, vous aviez le choix entre le tuer ou pas. C'est un peu compliqué pour réussir à y arriver, à pas le tuer, mais il y a la possibilité de juste l'endormir, le mettre sur une chaise et lui faire cramer le cerveau, histoire de lui apprendre un petit peu la vie. C'est bien d'être un génie, mais maintenant tu vas devenir un teubé. Voilà, il y a plein de petites possibilités avec les pouvoirs, avec le combat, avec l'infiltration et avec aussi ces robots d'ailleurs. Je ne sais pas si on le verra à l'écran. Mais il y a la possibilité de jouer avec ces robots qui, à la moindre alerte, hein, vraiment, vous fonce dessus, vous transpercent et ça dure pas très très longtemps avant qu'ils s'occupent de vous. Et il y a la possibilité de leur retirer la tête et là, ils s'attaquent n'importe quoi autour. Bref, vous pouvez imaginer des tas de choses avec les armes, avec la magie, avec l'infiltration. Et ça se présente vraiment super, super bien. J'ai hâte d'en voir plus parce que après, c'était quand même un niveau qu'on connaissait déjà, qu'on avait déjà aperçu. Donc c'est sûr que l'effet de surprise était un peu disparu. Puis j'aimerais bien voir aussi les différences entre Emily et Corvo, qui n'étaient pas
spécialement marquée durant notre session, parce que par exemple leur pouvoir de téléportation est quasiment le même, hein, dans les deux cas, mais ils s'appellent différemment, ils ont même pas la même icône. Bon bref, je pense que il va y avoir un petit game design bien pensé. Une histoire qui, j'espère, sera un peu plus palpitante que dans le premier, un peu mieux mise en scène aussi. Mais pour le reste, je crois que c'est du tout bon. On peut valider son ticket, hein, pour le 11 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC pour Dishonored 2, hein, il me semble.
J'ai pas joué au premier Dishonored. Dommage. C'est vraiment dommage pour moi parce que je sais que je suis passé à côté d'un jeu excellent.
Alors Raon en était fou.
Il en était fou. Ouais. Ouais. C'est un jeu à la Raon, comme on dit ici.
Oui, hein, exactement. Un jeu à la Raon.
Et non, mais en fait, l'image que j'ai de, parce qu'en fait, il a quand même pas connu le succès critique, il l'a connu, mais le succès populaire, c'est pas quand même une licence que les gens connaissent bien d'une manière générale.
Non.
Et comme quand BioShock, on se... un peu pour le coup.
Ouais. Bah non, BioShock, c'est pour moi beaucoup plus connu que Dishonored, quoi. Mais et BioShock, surtout, je trouve qu'on arrive à l'identifier tout de suite, alors que moi, l'image que j'ai de Dishonored, c'est que, enfin, tout est génial.
Ouais.
Chaque élément qu'ils mettent dans le jeu est trop
mais
bien.
Mais tu penses un peu trop à Thief, peut-être, quand tu le vois ou...
Non, mais t'as du mal, en fait, à définir ce qui fait son identité propre, véritablement, à sortir le truc qui fait « Ah oui, ça c'est Dishonored, c'est du Dishonored. » En fait, t'as l'impression que c'est une somme de trucs excellents, sans qu'il y ait une sorte...
Il n'y a pas de lion.
Un lion, il y en a peut-être, mais il n'y a pas un élément qui ressort, en fait... et qui te fait identifier, je trouve, le jeu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, hein?
Bah, je sais pas, moi je trouve que sa direction artistique, par exemple, est parfaitement identifiable. Tu vois, ces personnages avec les traits un peu exagérés, taillés à la serpe. Je trouve aussi que dans sa maniabilité, il a quelque chose que d'autres jeux n'ont pas. Je trouve que
c'est vraiment un commentaire j'ai vu de l'extérieur de quelqu'un qui a loupé malheureusement le premier.
Moi je trouve qu'il a plein de... alors il va piocher des idées un peu partout. Moi il y en a une en particulier, quand tu prends Emily, que tu te transformes en ombre, tu vois les deux bras ombrageux, on va dire, quand tu rampes dans cette position là j'ai l'impression de voir The Darkness quand je vois ça. Mais il y a plein de petits éléments,
mais en fait moi tout ce que je vois dans Dishonored chaque fois ça a l'air d'être des éléments géniaux indépendamment, mais qui sont pris peut-être dans d'autres jeux ou qui sont inspirés par d'autres trucs qui ont déjà existé. Et une espèce de, en plus je crois, enfin le gameplay est hyper complexe, tu peux faire plein de trucs, il y a plein d'armes,
c'est assez vertical aussi, ouais. Enfin pour moi il m'a l'air bien carré, ouais. Je pense que il sera meilleur que le premier, en tout
moi,
cas.
Quand j'ai vu les démos, en tout cas, à l'E3 la dernière fois, je trouve que ça faisait super envie, quoi.
Ouais. Non, mais Arkane, là, ils sont en train de prendre beaucoup d'ampleur avec Dishonored 2. Et puis après, hein, moi qui était le jeu qui m'a le plus impressionné de la Gamescom, mais c'était qu'une vidéo, mais bon,
ouais.
Ça avait quand même
super
impressionné.
Mais alors lui, il n'est pas développé à Lyon, lui, Prey?
Non, il est développé aux États-Unis, mais ça reste Arkane, hein, quand même.
Ouais.
C'est assez rigolo, d'ailleurs, hein, parce que c'est Harvey Smith qui est à Lyon. Et Raphaël, qui est le patron, hein, d'Arkane, qui lui est parti aux États-Unis pour Prey. C'est un peu.
Ils peuvent pas se saquer, en fait, quand il y en a un qui vient à l'autre.
Je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est assez rigolo de voir ça. En tout cas, moi, pour Dishonored 2, j'y crois à fond. Je sais pas pour vous.
J'y crois à mort. Moi, je pense que ça va être un super jeu. Après, c'est plus le côté succès commercial. Oui. Je me pose toujours la question.
C'est peut-être
après,
pas le
peut-être
bon moment.
Que le,
mais bon.
Peut-être que la bonne réputation du premier
va servir le deuxième,
la suite.
Ouais.
Le bouche à oreille aura peut-être fonctionné entre-temps et permettra à la suite de s'imposer. Si la suite est bonne, bien évidemment, mais elle a l'air d'être bien partie pour l'être.
Bon, en tout cas, sur ce seul niveau, en tout cas, j'ai eu ce que je voulais.
T'as kiffé ta race.
Absolument. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui pour le podcast. T'as d'autres moments de mauvaise humeur à partager avec nous ou pas,
Non, on pourrait peut-être parler de la NX. Je sais pas s'il y a un truc qu'on a oublié. Non
la NX. Attends, je réfléchis.
Non, je crois qu'on a tout dit.
Je crois qu'on a tout dit, ouais. Eh ben merci Romain, merci Julo pour ce dernier podcast.
Merci
de la rédaction.
Merci à toi, même si t'as été un peu relou de temps en temps.
De quoi?
Non, je dis merci à toi aussi.
Non, j'ai
si
pas compris la deuxième partie
relou.
De ta phrase. D'accord, ok.
C'est parce que tu parles par-dessus moi.
Pardon?
Bah oui. C'est vrai?
Non mais...
Ah
la vache. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. Attendez, j'ai pas remercié Poufy à la sono, évidemment. Poufy, l'homme qui dormait 3 heures parce qu'il passait son temps sur Forza.
Non, tiens, on va raconter ça.
Il s'endort au volant, Poufy.
Alors en fait, vous savez ce qu'il fait, Poufy? Excuse-moi, je raconte ta vie, mais je trouve ça assez marrant. Donc, comme en ce moment, il est niveau 378 à Forza, je crois, c'est ça à peu près. 532, je sais plus. et bon, en fait, il rentre chez lui le soir après le boulot à la rédac. Hop, il rentre. il joue à Forza, mais comme la veille il s'est endormi à 6h du matin, bah il s'endort le con. C'est pour ça qu'en fait il a très exactement 630 heures je crois au compteur si vous regardez son, son profil Xbox Live. Donc il s'endort devant
à 21h.
Et là il a bien dormi parce qu'il se réveille à 3h du matin et il se dit ah merde j'ai plus sommeil dis donc. Et là il joue bah, jusqu'à 6h. Alors là il dort un peu avant de venir et puis il ressort, il repart le soir et voilà, c'est une journée sans fin après.
Voilà, voilà, c'était Poufy, l'homme qui s'occupait de la réalisation de ce podcast. Comme d'habitude, hein, si vous avez envie.
Un petit message d'ailleurs.
Quoi ?
Je voulais pas te couper.
Tu veux parler du club Gameblog
exactement.
Sur Forza Horizon 3.
Voilà.
Allez, vas-y.
Si vous avez le bon goût de jouer à Forza Horizon 3, sachez que nous aussi. Et d'ailleurs, on y joue tellement qu'on a créé un club. Un club. Et que ce club s'appelle Gameblog FR, GBFR. Et que vous pouvez le rejoindre. Il y a encore 700 places disponibles pour l'instant. Peut-être un peu moins maintenant, peut-être 600 places, je sais pas.
Attends, on m'appelle.
Et plus
on
sera nombreux.
Oh là là, il reste plus que 10 places. Oh là là, dépêchez-vous.
Plus vous serez nombreux avec nous, plus nous arriverons à atteindre le haut du classement.
Il faudrait, tu sais, comme au Téléthon, un panneau derrière avec le chiffre qui évolue.
Mais non,
en,
mais viendez, quoi, c'est trop bien dans notre club. Voilà.
Bon, comme ça, vous pourrez voir Poufy s'endormir au volant. Voilà. Vous conduisez avec lui, la voiture s'arrête dans un coup en plein milieu.
Vous aurez une insomnie un jour, à 3h du matin, vous direz ah putain, Poufy en ligne. Enfin, Poufy, t'es là, toc 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 toc, puis il n'y aura jamais de réponse.
Un bouton klaxon.
Vous irez vous coucher, et là vous vous rendez compte qu'il y aura eu la réponse pendant la nuit, vous l'aurez le lendemain, il sera parti au boulot et tout ça. Enfin,
bon,
c'est assez
si vous jouez à Forza ou si vous avez des remarques à faire sur ce podcast en particulier, sur Lost Odyssey, sur les ventes de la Xbox One en Grande-Bretagne, sur No Man's Sky, sur la NX,
sur la façon dont Plume parle par-dessus les autres.
Attention, c'est parce que je t'ai fait la remarque une fois qu'il faut croire que tu peux te permettre de renverser la blague genre miroir magique.
Ça revient sur What?
Ouais, ouais, bah, c'est Coco Larico. Évidemment aussi pour Ubisoft et pour l'absence de Nintendo à la Paris Games Week, n'hésitez pas, les commentaires.
Et sur les habitudes de sommeil de Poufy aussi.
Et les habitudes de jeu et de sommeil de Poufy et la façon dont Julo s'exprime durant les podcasts, c'est-à-dire de plus en plus péremptoire, j'ai envie de dire.
Ta gueule.
Eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont juste en dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien.
Jouez bien. Ciao.
Salut tout le monde.